Trop agité par ce qu'il venait d'entendre pour rester au logis, il monta chez sa femme et lui dit « Allons la mère, tu peux passer la journée avec ta fille. Je vas à Froidfond. Soyez gentilles toutes deux. C'est le jour de notre mariage, ma bonne femme. Tiens, voilà 10 écus pour ton reposoir de la fête Dieu. Il y a assez longtemps que tu vas en faire un. Régale-toi. Amusez-vous, soyez joyeuses, portez-vous bien. Vive la joie !» Il jeta 10 écus de 6 francs sur le lit de sa femme et lui prit la tête pour la baiser au front. « Bonne femme, tu vas mieux, n'est-ce pas ?
Comment pouvez-vous penser à recevoir dans votre maison le Dieu qui pardonne en tenant votre fille exilée de votre cœur ? » dit-elle avec émotion.
« Ta 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 !»
dit le père d'une voix caressante.
« Nous verrons cela. »«
Bonté du ciel ! Eugénie ! »
cria la mère en rougissant de joie.
« Viens embrasser ton père, il te pardonne !»
Mais le bonhomme avait disparu. Il se sauvait à toutes jambes vers ses closeries en tâchant de mettre en ordre ses idées renversées. Grandet commençait alors sa 76e année. Depuis 2 ans, principalement, son avarice s'était accrue comme s'accroissent toutes les passions persistantes de l'homme. La vue de l'or, la possession de l'or, était devenue sa monomanie. Son esprit de despotisme avait grandi en proportion de son avarice et abandonner la direction de la moindre partie de ses biens à la mort de sa femme lui paraissait une chose contre nature. Déclarer sa fortune à sa fille, inventorier l'universalité de ses biens, meubles et immeubles pour les liciter,
ce serait à se couper la gorge,
dit-il tout haut au milieu d'un clos en examinant les ceps. Enfin, il prit son parti, revint à Saumur à l'heure du dîner, résolu de plier devant Eugénie, de la cajoler, de l'amadouer, afin de pouvoir mourir royalement en tenant jusqu'au dernier soupir les rênes de ses millions. Au moment où le bonhomme qui, par hasard, avait pris son passe-partout, montait l'escalier à pas de loup pour venir chez sa femme, Eugénie avait apporté sur le lit de sa mère le beau nécessaire. Toutes deux, en l'absence de Grandet, se donnait le plaisir de voir le portrait de Charles en examinant celui de sa mère.
« C'est tout à fait son front et sa bouche !»
disait Eugénie au moment où le vigneron ouvrit la porte. Au regard que jeta son mari sur l'or, Madame Grandet cria
« Mon Dieu, ayez pitié de nous !»
Le bonhomme sauta sur le nécessaire comme un tigre fond sur un enfant endormi.
« Qu'est-ce que c'est que cela ?»
dit-il, en emportant le trésor et allant se placer à la fenêtre.
« Du bon or, de l'or !» s'écria-t-il. « Beaucoup d'or, ça pèse 2 livres. Ah, ce Charles t'a donné cela contre tes belles pièces. Hein, pourquoi ne me l'avoir pas dit ? C'est une bonne affaire, fifille. Tu es ma fille, je te reconnais. »
Eugénie tremblait de tous ses membres.
« N'est-ce pas ? Ceci est à Charles ? »
reprit le bonhomme.
« Oui, mon père, ce n'est pas à moi. Ce meuble est un dépôt sacré. »«
Tata ! Il a pris ta fortune, faut rétablir ton petit trésor. »«
Mon père ?»
Le bonhomme voulut prendre son couteau pour faire sauter une plaque d'or et fut obligé de poser le nécessaire sur une chaise. Eugénie s'élança pour le saisir. Mais le tonnelier, qui avait tout à la fois l'œil à sa fille et au coffret, la repoussa si violemment en étendant le bras qu'elle alla tomber sur le lit de sa mère.
« Monsieur, monsieur !»
cria la mère en se dressant sur son lit. Grandet avait tiré son couteau et s'apprêtait à soulever l'or.
« Mon père !»
cria Eugénie en se jetant à genoux et marchant ainsi pour arriver plus près du bonhomme et lever les mains vers lui.
« Mon père !» Au nom de tous les saints et de la Vierge, au nom du Christ qui est mort sur la croix, au nom de votre salut éternel, mon Père, au nom de ma vie, ne touchez pas à ceci. Cette toilette n'est ni à vous ni à moi. Elle est à un malheureux parent qui me l'a confiée et je dois la lui rendre intacte.
Pourquoi la regardais-tu si c'est un dépôt ? Voir, c'est pis que toucher.
Mon Père, ne la détruisez pas ou vous me déshonorez. Mon Père, entendez-vous ?
« Monsieur, grâce !» dit la mère.
« Mon père !» cria Eugénie d'une voix si éclatante que Nanon, effrayée, monta. Eugénie sauta sur un couteau qui était à sa portée et s'en arma.
« Eh bien ?» lui dit froidement Grandet en souriant à froid.
« Monsieur, monsieur, vous m'assassinez, » dit la mère. « Mon père, si votre couteau entame seulement une parcelle de cet or, je me perce de celui-ci. Vous avez déjà rendu ma mère mortellement malade, vous tuerez encore votre fille. Allez, maintenant blessure pour blessure. »
Grandet tint son couteau sur le nécessaire et regarda sa fille en hésitant.
« En serais-tu donc capable, Eugénie ? » dit-il.
« Oui, monsieur, » dit la mère. « Elle le ferait comme elle le dit ? » cria Nanon. « Soyez donc raisonnable, monsieur, une fois dans votre vie !»
Le tonnelier regarda Laure et sa fille alternativement pendant un instant. Madame Grandet s'évanouit.
« Là, voyez-vous, mon cher monsieur, Madame se meurt !» cria Nanon.
« Tiens, ma fille, ne nous brouillons pas pour un coffre. Prends donc !» s'écria vivement le tonnelier en jetant la toilette sur le lit. « Toi, Nanon, va chercher Monsieur Bergerin. Allons, la mère, » dit-il en baisant la main de sa femme. « Ce n'est rien, va. Nous avons fait la paix. Pas vrai, fille ? Plus de pain sec, tu mangeras tout ce que tu voudras. » Ah, elle ouvre les yeux. « Eh bien, la mère, mes mères, timères, allons donc. Tiens !» « Vois, j'embrasse Eugénie. Elle aime son cousin, elle l'épousera si elle veut. Elle lui gardera le petit coffre. Mais vis longtemps, ma pauvre femme. Allons, remue donc. Écoute, tu auras le plus beau reposoir qui se soit jamais fait à Saumur. »«
Mon Dieu, pouvez-vous traiter ainsi votre femme et votre enfant ?» dit d'une voix faible Madame Grandet.
« Je ne le ferai plus, plus !» cria le tonnelier. « Tu vas voir ma pauvre femme. »
Il alla à son cabinet et revint avec une poignée de louis qu'il éparpilla sur le lit.
« Tiens, Eugénie, tiens, ma femme, voilà pour vous !» dit-il en maniant les louis. « Allons, égaie-toi, ma femme, porte-toi bien. Tu ne manqueras de rien, ni Eugénie non plus. Voilà 100 louis d'or pour elle. Tu ne les donneras pas, Eugénie, ceux-là, hein ?»
Madame Grandet et sa fille se regardèrent étonnées.
« Reprenez-les, mon père. Nous n'avons besoin que de votre tendresse. »«
Eh bien, c'est ça, » dit-il en empochant les louis. « Vivons comme de bons amis. Descendons tous dans la salle pour dîner, pour jouer au loto, tous les soirs à 2 sous. Faites vos farces. À ma femme. »«
Hélas, je le voudrais bien, puisque cela peut vous être agréable, » dit la mourante. « Mais je ne saurais me lever. »«
Pauvre mère, » dit le tonnelier, « tu ne sais pas combien je t'aime. Et toi, ma fille ?» Il la serra, l'embrassa. « Oh, comme c'est bon d'embrasser sa fille après une brouille, ma fifi ! Tiens, vois-tu mes mères, nous ne faisons qu'un maintenant. »« Va donc serrer cela, » dit-il à Eugénie en lui montrant le coffret. « Va, ne crains rien. » Je ne t'en parlerai plus jamais. »
Monsieur Bergerin, le plus célèbre médecin de Saumur, arriva bientôt. La consultation finie, il déclara positivement à Grandet que sa femme était bien mal, mais qu'un grand calme d'esprit, un régime doux et des soins minutieux pourraient reculer l'époque de sa mort vers la fin de l'automne.
« Ça coûtera-t-il cher ? » dit le bonhomme. « Faut-il des drogues ? »
Peu de drogue, mais beaucoup de soins, répondit le médecin qui ne put retenir un sourire.
Enfin, monsieur Bergerin, répondit Grandet. Vous êtes un homme d'honneur, pas vrai? Je me fie à vous. Venez voir ma femme toute et quantes fois vous le jugerez convenable. Sauvez-la. Quand même, il faudrait dépenser pour ça 100 ou 200 francs.
Malgré les souhaits fervents que Grandet faisait pour la santé de sa femme, dont la succession ouverte était une première mort pour lui, malgré les soins les plus tendres prodigués par Eugénie, Madame Grandet marcha rapidement vers la mort. Chaque jour, elle s'affaiblissait et dépérissait comme dépérissent la plupart des femmes atteintes à cet âge par la maladie.
Ce fut une mort digne de sa vie, une mort toute chrétienne. N'est-ce pas dire sublime ? Au mois d'octobre 1822, éclatèrent particulièrement ses vertus. Sa patience d'ange et son amour pour sa fille. Elle s'éteignit sans avoir laissé échapper la moindre plainte.
« Mon enfant, lui dit-elle avant d'expirer, il n'y a de bonheur que dans le ciel. Tu le sauras un jour. »
Le lendemain de cette mort, Eugénie trouva de nouveaux motifs de s'attacher à cette maison où elle était née, où elle avait tant souffert, où sa mère venait de mourir. Elle ne pouvait contempler la croisée et la chaise à patins dans la salle sans verser des pleurs. Elle crut avoir méconnu l'âme de son vieux père en se voyant l'objet de ses soins les plus tendres. Il venait lui donner le bras pour descendre au déjeuner. Il la regardait d'un œil presque bon pendant des heures entières. Enfin, il la couvait comme si elle eût été d'or. Le jour où la famille prit le deuil, après le dîner auquel fut convié Maître Cruchot, qui seul connaissait le secret de son client, la conduite du bonhomme s'expliqua.
« Ma chère enfant, dit-il à Eugénie, lorsque la table fut ôtée et les portes soigneusement closes, te voilà héritière de ta mère, et nous avons de petites affaires à régler entre nous deux. Pas vrai, Cruchot ?
Oui. Est-il donc si nécessaire de s'en occuper aujourd'hui, mon père ?
Oui, oui, Fifi. Je ne pourrais pas durer dans l'incertitude où je suis. Je ne crois pas que tu veuilles me faire de la peine.
Oh, mon père.
Eh bien, il faut arranger tout cela ce soir.
Que voulez-vous donc que je fasse ?
Mademoiselle, monsieur votre père ne voudrait ni partager, ni vendre ses biens, ni payer des droits énormes pour l'argent comptant qu'il peut posséder. Donc, pour cela, il faudrait se dispenser de faire l'inventaire de toute la fortune qui, aujourd'hui, se trouve indivise entre vous et monsieur votre père.
Mais, monsieur Cruchot, que faut-il que je fasse ? Demanda Eugénie, impatientée.
Eh bien, dit le notaire, il faudrait signer cet acte par lequel vous renonceriez à la succession de madame votre mère et laisseriez à votre père l'usufruit de tous les biens indivis entre vous et dont il vous assure la nue propriété.
Oh, je ne comprends rien à tout ce que vous me dites, répondit Eugénie. Donnez-moi l'acte et montrez-moi la place où je dois signer.
Le père Grandet regardait alternativement l'acte et sa fille et l'acte. En éprouvant de si violentes émotions qu'il s'essuya quelques gouttes de sueur venues sur son front. « Fifi, dit-il, au lieu de signer cet acte qui coûtera gros à faire enregistrer, si tu voulais renoncer purement et simplement à la succession de ta pauvre chère mère défunte et t'en rapporter à moi pour l'avenir, j'aimerais mieux ça. Je te ferai alors tous les mois une bonne grosse rente de 100 francs.
« Je ferai tout ce qu'il vous plaira, mon père. »«
Mademoiselle, dit le notaire, il est de mon devoir de vous faire observer que vous vous dépouillez. »«
Eh mon Dieu, dit-elle, qu'est-ce que cela me fait ?»«
Tais-toi, Cruchot. C'est dit, s'écria Grandet, en prenant la main de sa fille et y frappant avec la sienne. « Eugénie, tu ne diras point, tu es une honnête fille, hein ?»«
Oh mon père !»
Il l'embrassa avec effusion, la serra dans ses bras à l'étouffer. « Va, mon enfant, tu donnes la vie à ton père, mais tu lui rends ce qu'il t'a donné. Nous sommes quittes. Je te bénis, tu es une vertueuse fille qui aime bien son papa. Fais ce que tu voudras maintenant. À demain donc, Cruchot, dit-il en regardant le notaire épouvanté. Vous verrez à bien préparer l'acte de renonciation au greffe du tribunal. »
Le lendemain, vers midi, fut signée la déclaration par laquelle Eugénie accomplissait elle-même sa spoliation. Cependant, malgré sa parole à la fin de la première année, le vieux tonnelier n'avait pas encore donné un sou des 100 francs par mois si solennellement promis à sa fille. Aussi, quand Eugénie lui en parla plaisamment, ne put-il s'empêcher de rougir. Il monta vivement à son cabinet, revint, et lui présenta environ le tiers des bijoux qu'il avait pris à son neveu.
« Tiens, petite, dit-il d'un accent plein d'ironie. Veux-tu ça pour tes 1200 francs?
Oh, mon père, vrai, me les donnez-vous?
Je t'en rendrai autant l'année prochaine, dit-il en les lui jetant dans son tablier.
Vers la troisième année, il l'avait si bien accoutumé à toutes ses façons d'avarice, il les avait si visiblement tournées chez elle en habitude, qu'il lui laissa sans crainte les clés de la dépense et l'institua la maîtresse au logis. 5 ans se passèrent sans qu'aucun événement marquât dans l'existence monotone d'Eugénie et de son père. Ce fut les mêmes actes constamment accomplis, avec la régularité chronométrique des mouvements de la vieille pendule. La profonde mélancolie de Mademoiselle Grandet n'était un secret pour personne. Sa seule compagnie se composait des 3 Cruchot et de quelques-uns de leurs amis qu'ils avaient insensiblement introduits au logis. Il lui avait appris à jouer au whist et venait tous les soirs faire la partie. Dans l'année 1827, son père, sentant le poids des infirmités, fut forcé de l'initier au secret de sa fortune territoriale et lui disait, en cas de difficulté, de s'en rapporter à Cruchot, le notaire, dont la probité lui était connue. Puis, vers la fin de cette année, le bonhomme fut enfin, à l'âge de 82 ans, pris par une paralysie qui fit de rapides progrès. Enfin arrivèrent les jours d'agonie, pendant lesquels la forte charpente du bonhomme fut aux prises avec la destruction. Lorsque le curé de la paroisse vint l'administrer, ses yeux, morts en apparence depuis quelques heures, se ranimèrent à la vue de la croix, des chandeliers, du bénitier d'argent, qu'il regarda fixement, et sa loupe remua pour la dernière fois. Lorsque le prêtre lui approcha des lèvres le crucifix en vermeil pour lui faire baiser le Christ, il fit un épouvantable geste pour le saisir, et ce dernier effort lui coûta la vie. Il appela Eugénie, qu'il ne voyait pas, quoiqu'elle fût agenouillée devant lui, et qu'elle baigna de ses larmes une main déjà froide.
« Mon père, bénissez-moi, » demanda-t-elle.
« Aie bien soin de tout. Tu me rendras compte de ça là-bas. »